France Culture. L'esprit d'ouverture.
Affaire culturelle sur France Culture, Arnaud Laporte.
Affaire culturelle s'engage pour la culture et la création, une émission en trois parties, un grand entretien avec un artiste, affaire en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, affaire à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger.
Affaire culturelle, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Mécanique du journalisme. Une collection de podcasts originaux de France Culture.
47 000 pages de documents ultra confidentiels.
Dans les coulisses des grands scoops de notre époque,
les noms de centaines d'entreprises
racontés par ceux qui les ont révélés.
Des géants de l'automobile, du luxe,
du cœur de l'Europe au paradis offshore, montage financier ultra secret, passe-droit à grande échelle, des LuxLeaks aux Panama Papers, le scandale de l'évasion fiscale, raconté par les journalistes Édouard Perrin et Élise Carlin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Plus de 138 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 en France depuis la fin du mois de décembre. 138 000 personnes, c'est ce qu'indique la Direction Générale de la Santé, alors que depuis hier, le vaccin Moderna est venu s'ajouter à celui de Pfizer-BioNTech dans le pays. La vaccination sera étendue lundi prochain aux plus de 75 ans hors EHPAD. Mais de son côté, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, prévient déjà il ne faut pas compter sur une immunité collective cette année. Les campagnes de vaccination massive ne suffiront pas. Deux nouveaux départements ont vu hier soir leur couvre-feu nocturne avancer de 20h à 18h. Il s'agit du Var et de la Drôme. 25 départements sont donc désormais concernés au moins jusqu'au 20 janvier prochain. Et c'est toujours un couvre-feu à 20h pour tous les autres en métropole. Dans ce contexte, l'exécutif va-t-il reconfiner le pays? Une conférence de presse du Premier ministre est prévue jeudi soir, après-demain. Jean Castex réunissait déjà hier les chefs des groupes parlementaires et il n'a pas exclu à un troisième confinement, même si, dit-il, aujourd'hui, les chiffres laissent penser que le couvre-feu suffit. La semaine qui vient sera décisive, 15 jours après les fêtes et les vacances. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden est désormais immunisé contre le Covid-19. Il a reçu sa deuxième injection de vaccin hier, à 8 jours de son investiture. Elle se passera d'ailleurs, cette investiture, sous bonne garde. 15 000 soldats seront à Washington pour éviter que les violences comme celle du Capitole se reproduisent. Donald Trump a approuvé l'état d'urgence dans la ville pour la cérémonie. Donald Trump et la mouvance QAnon qui le soutient, eh bien Twitter a annoncé cette nuit avoir suspendu de façon permanente pendant ces 4 derniers jours 70 000 comptes affiliés à QAnon. La plateforme a entrepris une purge pour éviter, dit-elle, les appels à la violence.
Avec sa caméra, Claude Chabrol filme, mais surtout, il dissèque. Comme avec un scalpel, ce réel qui nous résiste et nous rend fous.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
Au menu, le boucher, l'enfer, la cérémonie et Isabelle Huppert qui viendra pour vous réfléchir sur ce que le regard de Chabrol fait au jeu et au cinéma. Alors installez-vous, petit meurtre en province, lutte des classes et chocolat chaud, que les réjouissances commencent.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
En janvier 2010, l'indéboulonnable président tunisien Ben Ali quittait le pouvoir sous la pression de la rue.
Culture Monde, Florian Delorme.
Un événement qui entraînait dans son sillage une grande vague de manifestations dans quasiment tout le monde arabe. Entre l'internationalisation de conflits armés inextricables en Syrie ou en Libye, jusqu'au retour des militaires du côté de l'Égypte, en passant par la Tunisie. Sous la cendre des révolutions arabes, un reste de flamme.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Sur France Culture à 6h03, nous retrouvons Bruno David. Il s'intéresse ce matin dans sa chronique Le Monde Vivant au maïs.
Le mal de la misère a frappé. Le petit Luigi est malade. Il a la pélagre. Sa peau est rouge, il se sent faible, est pris de nausées. Sa langue est enflée. Il ne tardera pas à mourir. Pourtant ses parents, paysans pauvres des piémonts italiens, le nourrissent du mieux qu'ils peuvent. Ils lui ont encore donné une pleine ration de polenta, sans savoir que cette nourriture à base exclusive de maïs est la cause du mal, une carence en tryptophane, un acide aminé. Triste paradoxe, car le maïs est une plante sacrée, un don des dieux pour les Aztèques. Chez les Toltèques, le dieu du maïs est le dieu de la vie. Une plante vénérée au point que, dans certaines civilisations, des enfants étaient sacrifiés pour que le maïs pousse. Les petits Italiens n'en ont pas été, hélas, les seules victimes. Il faut dire que la culture du maïs par les Mexicains remonte à près de 9000 ans. C'est donc une relation très exceptionnelle qui s'est tissée entre les peuples d'Amérique centrale, puis des deux Amériques, avec cette plante. Botaniquement, le maïs, Zea maïs maïs, a une histoire tout aussi exceptionnelle. Zea maïs maïs dérive de la théosinthe, Zea maïs mexicana, sa forme sauvage dont les petits épis forment un empilement alterné sur deux colonnes jointives de grains superposés. Mais comment en est-on arrivé à l'épi aux nombreuses rangées de grains que l'on connaît? La réponse est par une transmutation sexuelle. Le maïs de nos assiettes serait une sorte de transgenre. Intriguant, non? D'abord, un plant de théosinthe porte à la fois des épis mâles et femelles. Les épis femelles sont faits, comme on vient de le voir, d'une double colonne de petits grains. Les plumets des épis mâles sont organisés en plusieurs rangées. La tige principale se termine à son sommet par un groupe d'épis mâles. Il en est de même pour toutes les branches latérales. Les épis femelles sont implantés plus bas, à l'intérieur de la plante, le long des branches. Nous avons donc une plante divisée en deux zones d'influence, une zone mâle périphérique et une zone femelle interne. La sélection culturelle a conduit à réduire les branches latérales qui se sont ainsi trouvées complètement intégrées à la zone d'influence femelle. Des épis femelles se sont alors développés à la place des épis mâles sur les extrémités des branches latérales, mais tout en conservant leur organisation en multiples colonnes. Les Mexicains ont féminisé les épis mâles en gagnant sur les deux tableaux, avoir des grains femelles donc, et des rangées multiples. Tout cela ne s'est pas fait en un jour. Au Mexique, les archéologues attestent que la transition entre un petit épi de théosinthe de quelques centimètres à un épi d'une dizaine de centimètres a pris quelques millénaires, aboutissant à de multiples variétés. Cette découverte de féminisation d'épis mâles a permis d'éclairer d'un jour nouveau l'origine des fleurs. La fleur viendrait-elle de l'expression des caractères d'un sexe dans le territoire de l'autre? En attendant, le maïs continue de faire son cinéma dans les boîtes de pop-corn.
Vous écoutez Les Petits Matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Comment le monde de l'art affronte-t-il la crise sanitaire et ses conséquences dramatiques avec notamment la fermeture des musées? Et quant à nous, faut-il se résigner à voir les expositions à travers nos écrans comme cela se fait de plus en plus? Nous ferons le point avec mon invité ce matin, Anaïl Pijat, critique d'art et journaliste. Alors les musées sont fermés, mais les galeries, elles, restent ouvertes. Donc nous évoquerons aussi l'exposition des photos de Sami Balogi à la galerie Imane Fares. C'est une galerie parisienne qui a pour ambition de valoriser les pratiques d'artistes contemporains du continent africain.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Anaïl Pijat.
Bonjour Toufik Hakem.
Vous êtes critique d'art et journaliste spécialisée dans l'art contemporain. On peut lire vos écrits dans Paris Match et vous publiez aussi dans The Art Newspaper France mensuel. Alors la première question, comment va le monde de l'art ?
Écoutez, il va, mais il s'est senti en meilleure forme comme le reste de la planète, j'imagine. Le monde de l'art est évidemment très très secoué. Il est aussi très riche de beaucoup de réactions qui se produisent, de productions de crise qui tentent de réagir, de produire des réactions devant ce monde d'incertitude dans lequel on se trouve.
C'est-à-dire que désormais, on peut visiter des expos d'une manière virtuelle, à défaut de pouvoir se rendre au musée. Est-ce qu'il faut d'abord accepter cette idée, l'intégrer comme une nouvelle pratique ?
Alors, je crois vraiment pas. Il y a évidemment de nouvelles pratiques qui se dessinent, mais le sens de s'intéresser à des œuvres d'art, c'est d'abord, avant tout, vraiment de les voir, d'avoir l'expérience physique de ces œuvres et de s'y confronter avec nos yeux et avec nos corps. Je crois vraiment que c'est la chose qu'il ne faut pas oublier. Évidemment, dans la circonstance où nous nous trouvons et dans laquelle la plupart des musées sont fermés, ça devient très difficile. Et il y a des pratiques nouvelles qui naissent. Les musées se sont donné énormément de mal et ont produit des initiatives très riches de contenu sur Internet. On parle de ce mot, on utilise ce mot un peu galvaudé, de contenu. En tout cas, de paroles d'artistes, de paroles de commissaires, de ressources sous toutes leurs formes possibles qui, je crois, sont toujours des compléments, mais ne peuvent absolument pas être conçus comme autre chose que des compléments à ce que nous attendons tous avec une immense impatience, c'est-à-dire le retour de l'ouverture des musées et des visites possibles des expositions et des collections.
Autre question, Anaëlle Pigeat, est-ce que la crise sanitaire va obliger les musées à ne recourir qu'à leurs propres collections ? Est-ce que les œuvres d'art vont cesser de voyager à travers le monde après ce que nous avons vécu ?
C'est évidemment une des questions que l'on se pose dans la situation présente. Je pense que la réalité est moins tranchée, je l'espère en tout cas, parce que les expositions, les grandes expositions, là je parle des expositions historiques, sont aussi des manières de faire avancer la recherche en histoire de l'art. Il y a évidemment une dimension de fréquentation et de ressources pour les musées, mais ces expositions ont aussi une fonction de découverte et d'écriture de l'histoire. Pour ce qui concerne l'art contemporain, c'est la même chose. Les expositions ont aussi une fonction contribuent à la production des œuvres d'art et contribuent à faire avancer le travail des artistes. Donc, j'espère que l'activité des musées ne va pas se concentrer exclusivement sur les collections. Cela dit, il est vrai que les musées disposent de l'immense richesse que constituent les collections et que la crise actuelle contribue à une réflexion qui n'est pas née de la crise, qui était déjà présente depuis pas mal d'années, de réfléchir à la façon dont on s'intéresse aux collections des musées, aux collections permanentes, en inventant peut-être de nouveaux formats d'exposition dans lesquels on utiliserait les collections présentes sur place pour éviter des transports d'œuvres excessifs. Parfois, ça n'est pas possible parce que parfois, on a vraiment besoin d'une œuvre qui se trouve à l'autre bout du monde pour étayer une démonstration, par exemple, ou bien simplement pour offrir à des visiteurs la chance de voir ces œuvres qu'ils ne pourraient pas voir s'ils n'ont pas la chance de se déplacer à l'autre bout du monde. Et puis, il y a encore une autre réflexion qui me semble être menée en ce moment autour de la question des réserves des musées. Parce que, bien souvent, les réserves des musées sont remplies d'œuvres qui sont tout à fait intéressantes, qui ne sont pas exposées faute de place. C'est notamment le cas du Centre Pompidou. C'est moins le cas, par exemple, au Louvre, où la plupart des grands chefs-d'œuvre sont plutôt exposés. Mais donc, on s'interroge aujourd'hui sur la manière, peut-être, d'ouvrir davantage ces réserves des musées, à les transformer pour certaines, c'est le cas du Louvre, vraiment en des lieux de travail pour les conservateurs, pour les chercheurs, donc à des lieux un peu plus ouverts. Et puis pour d'autres endroits, à les ouvrir à des visiteurs, dans certaines conditions évidemment. Et je pense par exemple au FRAC Île-de-France, qui est sur le point d'ouvrir des réserves visitables à Romainville, dans un bâtiment nouveau, spécifique, qu'on attend avec impatience quand tout ça pourra rouvrir, dont l'ouverture était prévue cet automne. Et puis le Centre Pompidou également prépare de grandes réserves qui seront ouvertes au public à Massy et qui ont pour objet là de drainer une activité culturelle dans tout le territoire autour de cette ville.
Vous avez parlé de conservateurs, vous avez parlé d'historiens de l'art, Anaëlle Pigeat, et il s'est fallu parler maintenant des commissaires d'exposition. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment ?
Alors les commissaires d'exposition, évidemment, ils sont très importants. Ils sont souvent, parfois ce sont des conservateurs, mais ils sont évidemment souvent indépendants. Pour eux, la situation est très compliquée en ce moment. Alors je crois qu'elle crée la nécessité d'une double réaction. Il y a des réactions rapides, des réactions immédiates, des réactions d'adaptation. on a vu d'expositions qui sont nées de la crise. On en a vu un certain nombre qui ont été tout à fait intéressantes. Je pense par exemple à l'exposition « Jusqu'ici, tout va bien » qui s'est nouée au Palais de Tokyo à la fin du printemps, qui a ouvert au mois de septembre et qui a consisté en une invitation aux étudiants de l'école Courtrage-Mais, les étudiants en cinéma pour l'essentiel d'entre eux, qui était porté par les personnes qui s'occupent de cette école, donc l'Adjli, le cinéaste Mathieu Kassovitz et l'artiste JR. Et les étudiants de l'école sont venus exposer au Palais de Tokyo. Il y avait une énergie absolument formidable. Ça a été l'occasion de découvertes tout à fait intéressantes. Je pense aussi, et ça c'est des commissaires qui se sont mobilisés pour faire cette proposition. Je pense aussi, dans un autre genre, à la manière dont Chris Darkon, le président du Grand Palais, a offert l'espace de l'immense nef à un artiste, Frank Skurti, pour y déployer son atelier et pour y faire une sorte d'exposition en cours de réalisation qu'on a pu voir cet été dans la nef du Grand Palais et qui s'est tout à fait improvisée au moment de la crise. L'exposition qui est au Palais de Tokyo, Anticorps aussi, qui est accrochée en ce moment et invisible malheureusement, est également une réaction des artistes face à la crise. Et puis, il y a aussi une autre chose inventée tout à fait intéressante par le FRAC Lorraine à Metz, qui a eu lieu à la sortie du premier confinement et qui va probablement là être renouvelé, dans lequel l'équipe du FRAC, donc les commissaires du FRAC, ont proposé à des visiteurs d'ouvrir le FRAC, de donner les clés du FRAC pour visiter les expositions seules ou bien à quelques-uns sur rendez-vous et profiter d'un instant comme ça, de quelques instants seuls dans le lieu d'exposition. Cela dit, pour les commissaires, je parle des commissaires qui sont attachés à des lieux, pour les commissaires indépendants, la situation est évidemment très difficile parce que on peut imaginer des projets comme ça, mais leur fragilité est extrême, peut-être parfois extrême. Alors évidemment,
quand vous parlez de fragilité, c'est fragilité économique.
Économique, bien sûr, économique, et savoir comment eux peuvent survivre et dans quelles conditions ils peuvent mener leurs projets indépendants. Alors évidemment, on peut dire, et je crois que c'est une réalité aussi, que ce temps dans lequel nous nous trouvons est une manière de, enfin peut-être saisi comme un temps de réflexion, comme un temps de préparation de projets à long terme, de gestation, d'écriture aussi parfois. Et puis pour les commissaires, il y a aussi des possibilités, mais qui sont assez rares et très précieuses, de résidence, c'est-à-dire de moments de travail qui sont destinés à préparer des projets, d'expositions, des collaborations avec des artistes et une manière de profiter de ce temps long, mais dans l'incertitude présente, c'est évidemment très difficile.
Voilà. Et puis, il reste cette option. Alors, elle n'est pas du tout d'actualité par la météo qui fait, puisqu'on est en plein hiver, mais c'est de sortir des musées et sortir l'art des lieux clos.
Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'expositions qui ont été déployées sur les grilles des jardins publics, d'œuvres dans l'espace public. On peut aussi penser à des vitrines de galeries qu'on peut voir de l'extérieur et qui offrent des invitations à la promenade, comme ça, qui crée d'autres possibilités de voir des œuvres, mais qui ne remplacent évidemment pas l'espace du musée ni celui du centre d'art.
Alors les musées sont fermés, mais les galeries sont ouvertes. Vous restez avec nous, Anaïl Pija. Dans un instant, on va parler d'une exposition qu'on peut voir dans une galerie parisienne.
The guilty undertaker sighs, a lonesome organ grand a cries, a silver saxophone say should refuse you. Cracked out bells and washed-out horns, they blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the streets where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me, drinking from that broken cup, and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you.
they've gone down. True love would have been without it. But all their doubts has put me down, 'cause I don't think about it. Will I return to the queen of space and talk with my chambermaids? She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she does not see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. A dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But he did it because he lied, and because he took you for a ride, and because time was on his side, and because I want you.
Anaëlle Pigeat est l'invitée du Réveil culturel sur France Culture. Anaëlle Pigeat, cette année, ça devait être la saison Africa 2020. C'est mal tombé, hein, avec la crise sanitaire. Néanmoins, dans les galeries, puisque les galeries sont ouvertes, on peut voir une exposition de l'artiste Sami Balogi. C'est dans une galerie parisienne, la galerie Iman Fares, d'ailleurs spécialisée dans l'art contemporain du continent africain.
Tout à fait. La galerie Iman Fares, qui est installée à Saint-Germain-des-Prés, est une galerie qui, très engagée, qui montre essentiellement des artistes issus du continent africain, aussi du Moyen-Orient, et avec une dimension plutôt conceptuelle, qui est donc le goût de cette galeriste, Iman Fares. C'est une galeriste qui est très, je vous le disais, très engagée, au sens où elle est très proche de ses artistes et elle produit beaucoup d'œuvres, elle les accompagne de très près. En ce moment, il y a une exposition donc de Sami Balogi, qui est un artiste du Congo, dont l'œuvre examine l'histoire de son pays, notamment la région du Katanga, et la manière dont le continent africain se réapproprie aujourd'hui sa propre culture.
Via la photographie, en ce qui concerne nos amis.
Via la photographie, Balogi. Et puis aussi des objets. Il est un artiste, il a commencé par la photographie, et puis aujourd'hui, sa pratique s'est élargie un peu plus. Il réalise aussi des objets. Il vit aujourd'hui en partie à Bruxelles, mais il est très actif également dans la Biennale de Lubumbashi, qui est un des événements importants du continent pour l'art contemporain. C'est un artiste qui aujourd'hui a une stature internationale. Il a été résident à la Villa Médicis en 2019. Et là, l'exposition montre un certain nombre d'objets, enfin d'œuvres, qui ont été réalisées à l'occasion d'une résidence qu'il a faite au musée Rydberg à Zurich, qui est un musée d'ethnographie, enfin, qui montre des objets traditionnels de différentes cultures. Et l'exposition met en tension des archives coloniales issues de la collection d'images d'un ethnologue et d'un collectionneur, Hans Himmelheber, et des pratiques traditionnelles de transmission, essentiellement. Alors, il y a un certain nombre de collages photographiques sur des miroirs dans lesquels Sami Balogi associe des images de la collection de cet ethnologue, donc des objets traditionnels, avec des scanners de ces objets. C'est une manière de s'interroger sur ce que l'on voit vraiment, d'une certaine manière sur les limites de la manière qu'on a de scruter les choses, sur les silences aussi, et peut-être sur les choses que l'on ne voit pas. Il y a également un film qui montre une performance dans laquelle des musiciens récitent des poèmes généalogiques, qui était une performance qui s'est tenue dans le musée Rietveld à Zurich, c'est-à-dire au milieu de ces objets que ce chant visait à réveiller, en quelque sorte. Et puis enfin, il y a dans une grande vitrine un corps de chasse en cuivre magnifique, doré, qui a la particularité d'être scarifié. Cet objet, vous parliez de la saison Africa 2020. qui est en train de devenir Africa 2021, effectivement.
En espérant qu'elle se tienne.
En espérant, hein. oui, bien sûr, en espérant de toutes nos forces et en la voulant vraiment, comme disait la chanson qu'on entendait à l'instant. En tout cas.
Une reprise de Dylan, ça vous l'avez deviné tout de suite.
Voilà. Donc, le corps de chasse qui est dans l'exposition fait écho, en quelque sorte, à deux objets. Vous parliez d'espace public, d'œuvres visibles dans l'espace public. Deux objets qu'on peut voir.
Deux sculptures, oui.
Deux sculptures monumentales qui sont installées aux portes du Grand Palais.
Et qu'on ne peut pas rater, hein, si on est à Paris. Qu'on
vraiment, passe... oui. En descendant les Champs-Élysées, on les voit très bien. C'est une invitation qui a été faite par Chris Dercon, le président du Grand Palais, à Sami Balogi, à l'occasion de la saison Africa 2020, de créer des œuvres sur deux socles pour des statues qui étaient vides. Et ces sculptures sont... deux corps d'instruments de musique, donc monumentaux, qui font plusieurs mètres de haut, en cuivre, qui rappellent ces instruments qui ont été laissés par les corps expéditionnaires de l'armée française en Louisiane et qui ont été utilisés par les esclaves pour créer les brass bands, donc les origines du jazz. Et ces corps de chasse ont été scarifiés par l'artiste, par Sami Balogi, selon des motifs traditionnels du Congo, qui sont donc déchiffrables uniquement par des initiés, une pratique qui avait été éradiquée par la présence coloniale. Donc en fait, c'est ce dialogue entre les cultures qu'évoquent ces œuvres.
Et l'histoire.
Et l'histoire, absolument. Et ces symboles de réappropriation, comme je commençais à le dire tout à l'heure, par le continent de sa propre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi, ces œuvres ont été produites par la galerie Imane Fares. Et elles sont visibles jusqu'à fin février à l'entrée du Grand Palais, donc ouvert à tous. Et c'est aussi une manière de souligner, que d'en parler, le rôle des galeries, qui est de soutenir les galeries, de soutenir, pardon,
des artistes.
Les artistes, et de donner l'art visible à un assez grand nombre de visiteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les galeries, évidemment, sont des lieux de commerce, sont des lieux de spéculation financière, mais sont aussi, je ne sais pas dire avant tout, mais presque, des lieux de transmission, des lieux d'échange sur l'art, qui sont des lieux gratuits, ouverts en général avec une assez grande amplitude horaire, et dont on peut pousser la porte et où on peut être accueilli pour parler, pour découvrir, pour échanger, parfois pour rencontrer des artistes quand ils sont de passage dans la galerie. Et c'est une fonction très importante de ces lieux que, je crois, pour le coup, on peut saisir l'occasion de la crise sanitaire pour les redécouvrir et pour s'en emparer à nouveau, pour les fréquenter. Non pas qu'ils aient été oubliés auparavant, mais leur donner une attention particulière. Voilà.
Une autre dimension que le marché de l'art, quoi.
Et exactement, et ce sont aujourd'hui les lieux où on peut voir de l'art facilement. In the shape of a moon, your love would leave his color. So tell me why you would I go there and be so alone with a girl like you.
Merci beaucoup Anaëlle Pijat, ça a été un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes critique d'art et journaliste.
Merci beaucoup Toufik Hakem.
À bientôt.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Et pour avoir une idée de ce que fait Sami Balogi, puisqu'il a été question de Sami Balogi dans cette émission, vous pouvez faire un tour du côté de franceculture.fr. Vous trouverez tout à votre disposition à la page du Réveil culturel. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Jordan Fuentes. On se retrouve demain. Demain, on parlera d'une des premières stars du cinéma, sinon la première star du cinéma, Douglas Fairbanks. Dans un instant, les informations. Bonne journée sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Ils nous manquent, ils nous attendent et nous les attendons. Voir et montrer, partons au musée.
L'histoire s'écrit chaque matin sur France Culture, Xavier Mauduit.
L'art d'exposer les œuvres a une histoire, celle des trésors et des collections, celle des musées. Qu'ils nous racontent la nation ou qu'ils traversent les guerres, allez, mesdames et messieurs, suivons le guide.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Nous qui sommes sans passé, les femmes...
Elles sont artistes, écrivaines, politiques, avocates, juges. Je ne serais pas arrivée là si... Nouveau podcast original de France Culture. Angélique Kidjo, Amélie Nothomb, Virginie Despentes, Christiane Taubira, Gisèle Halimi ou Shirin Ebadi, des femmes qui ont imposé leur voix dans un monde forgé par les hommes. À partir d'une série d'entretiens d'Annick Cogent, écoutons-les dans les voix de Julie Gaillet et Judith Henry qui signent la mise en scène. Je ne serais pas arrivée là si, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et nous commencerons ce journal à Londres, dans un hôpital saturé par le Covid-19. Le variant du virus multiplie les malades et épuise le personnel soignant. Pendant ce temps, en France, les premiers vaccinodromes accueillent les premiers arrivants. Si les soignants espèrent un sursaut collectif, l'OMS rejette l'idée d'une immunité planétaire cette année. Un plan jeune pour mieux rémunérer les moins de 25 ans qui travaillent et les entreprises qui les embauchent. La promesse est belle, elle est faite par le gouvernement français. La réalité plus difficile, c'est ce que nous dira notre reporter. Et puis nous irons au Mozambique où les djihadistes multiplient les attaques ces dernières semaines et poussent le groupe Total à exfiltrer ses salariés. Plus de 80 000 morts et des hôpitaux sous pression. Le Royaume-Uni vit une période sombre, en particulier à Londres où les hôpitaux sont au bord de la submersion face aux variants du Covid-19, plus contagieux que le Covid-19 lui-même. Les soignants travaillent depuis plusieurs jours dans des conditions très difficiles, c'est ce qu'a constaté notre correspondant Richard Place.
C'est un imposant bâtiment gris et vert, c'est le University College Hospital. À travers la baie vitrée qui orne la façade, on peut voir le personnel et les patients. Tout le monde porte un masque et tout le monde paraît assez calme. Pourtant, dans les étages, dans les couloirs, c'est l'animation comme jamais depuis le début de cette pandémie. Amira est infirmière en soins intensifs ici à Londres. Elle ne veut pas dire dans quel établissement elle travaille. Elle craint des représailles de la part de sa direction parce qu'aujourd'hui, elle prend la parole pour dire sa fatigue, son épuisement, le manque de moyens et la difficulté de faire correctement son travail.
C'est très effrayant, c'est traumatisant. Je ne sais pas où nous allons puiser, mes collègues et moi, la force pour nous lever le matin, pour retourner au travail ou le soir quand nous faisons des gardes de nuit. Des médecins d'autres services viennent nous aider en soins intensifs, mais ils n'ont pas été formés pour ça. C'est fou. On redoute tous beaucoup plus de morts dans les jours et les semaines qui viennent.
Amira raconte ses journées interminables où elle ne s'accorde aucune pause de peur des conséquences dramatiques. Alors chaque jour, avant de venir travailler, elle boit très peu pour ne pas aller aux toilettes de la journée. Elle fait ce métier depuis 10 ans. Elle était là pendant la première vague. Elle a aussi participé à des missions humanitaires dans des camps de réfugiés au Moyen-Orient. Mais elle n'a jamais connu une telle pression, dit-elle aujourd'hui.
Hier en Grande-Bretagne, les autorités sanitaires signalaient encore plus de 46 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 529 décès supplémentaires. Les chiffres sont heureusement un peu moindres de l'autre côté de la Manche en France, mais inquiétants aussi. 310 morts hier liés au Covid-19 et surtout des hospitalisations toujours en hausse, à près de 29 000 au total sur le territoire. La vaccination parallèlement s'accélère. Nous évoquions hier ici même les 300 centres ouverts en France. Rosalie Lafarge s'est rendue dans celui de Meaux, en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. 40 personnes ont pu s'y faire vacciner hier. Et le docteur Christian Allard, cancérologue, responsable de ce centre, également adjoint au maire Les Républicains, espère que cela va encourager l'ensemble de la population à suivre.
Tout le monde dans ce pays n'est pas contre la vaccination, pas du tout. Et puis vous savez très bien qu'il y a des gens indécis, ce qui peut se comprendre, parce que dans la cacophonie ambiante, plutôt inquiétante, en tout cas pas rassurante, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui hésitent. Mais quand on va voir qu'il y a une majorité de gens qui viennent se faire vacciner, qui viennent pour leur deuxième injection, je suis sûr que beaucoup, beaucoup vont rejoindre ces lignes vaccinales. L'objectif, c'est ça, d'avoir une immunité collective la plus importante. C'est la seule façon, en l'absence d'un médicament qui tue ce virus ou qui le paralyse, c'est la seule façon de nous en sortir. Mais c'est une opération, c'est pas le coup de baguette magique. Ça prend des mois. Le temps de vacciner toute la population, ça va demander au moins 2 mois, voire 3 mois. Parce qu'il faut compter, il y a le rappel. Mais on sera capable de le faire.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge à Meaux hier, alors que l'Organisation mondiale de la santé estimait qu'une immunité collective ne sera pas possible cette année en 2021, les vaccinations étant trop lentes et disparates sur la planète et les contaminations trop rapides. Conséquence économique maintenant de cette crise, comment assurer un avenir aux jeunes de moins de 25 ans? L'été dernier, le gouvernement avait promis 7 milliards d'euros pour les entreprises qui embauchent des jeunes en CDD longs, en CDI ou en apprentissage. Mais cet argent tarde à venir. Aujourd'hui, les députés vont débattre dans l'hémicycle de l'Assemblée d'un plan gouvernemental, car de l'aveu même du ministère du Travail, à peine plus d'un quart des dossiers déposés ont été validés et payés, Thomas Giraudeau.
Dépassé par le succès du plan jeune, l'État a embauché 200 personnes supplémentaires à l'agence de services et de paiement pour traiter l'immense pile de demandes qui s'entassent, près de 400 000 dossiers reçus. Celui de Jean-Michel Garcia dans le Lot-et-Garonne prend la poussière depuis le mois d'août, date où ce dirigeant de TPE a embauché 2 jeunes apprentis.
Ça fait 1300 euros par mois qui ne rentrent pas dans la trésorerie de l'entreprise, donc que l'entreprise avance. Alors je veux bien être patient, mais depuis le mois d'août, ça commence à faire un peu long. Je ne comprends pas que le dossier traîne alors qu'on parle de digitalisation, de numérisation et que quand on appelle leur numéro en 0809-549-549, que je connais par cœur, on arrive à voir personne au bout du fil.
Il est très difficile de joindre le service par téléphone, affirme aussi Amel Le Commandou. Pour son embauche en CDI en septembre, ses patrons devaient toucher 4000 euros. Ils les attendent toujours, tout comme les 8000 euros de prime pour un apprenti engagé en octobre.
On n'a pas de notification d'avancement sur les dossiers, pas de délai. Et ensuite, on a eu des soucis par rapport surtout aux plateformes qui sont pas du tout claires et qui sont surtout multiples en fait. Et c'est un petit peu ça la complexité de la chose, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs différents pour un seul et même dossier.
Critiquée sur le sujet, la ministre du Travail s'engage, mais uniquement sur les primes à l'embauche d'apprentis. Elles seront versées d'ici le 5 février. À la CPME, on veut croire en la promesse d'Elisabeth Borne. Si elle l'annonce, nous dit le syndicat patronal, c'est qu'elle doit mettre les moyens nécessaires.
C'était Thomas Giraudeau pour France Culture. Il y a du monde à gauche. À 1 an et demi de la présidentielle, Arnaud Montebourg a désormais un mouvement, un nouveau parti officiellement lancé. C'est dimanche soir, quand la maire de Paris, socialiste Anne Hidalgo, annonçait-elle une plateforme d'idées pour un projet à gauche à l'aube donc de la présidentielle. Autre ambiance à la droite de la droite maintenant. 80 responsables de Debout la France avaient quitté le navire en décembre dernier. Eh bien, hier encore, 2 nouveaux cadres sont partis. Ils rejoignent en fait un mouvement proche de Marine Le Pen, Antoine Maret.
Lisa Haddad, députée suppléante de Nicolas Dupont-Aignan, et Nadejda Silanina, ex-déléguée nationale à l'assimilation républicaine au sein de Debout la France, ont annoncé hier leur départ du parti souverainiste. Toutes deux rejoignent Demain la France, un mouvement fondé par Jean-Philippe Tanguy, lui-même ancien de Debout la France.
Nous sommes un collectif de cadres gaullistes, souverainistes, qui assument qu'il faut faire alliance avec Marine Le Pen, qu'il faut l'épauler pour construire un projet et une coalition qui peut gagner l'élection présidentielle. Donc au fur et à mesure que M. Dupont-Aignan n'est pas capable de justifier les motifs de son refus de s'allier avec Marine Le Pen, les cadres de Debout la France ont compris que ce que je disais était vrai et de bon sens, tout simplement.
Une alliance entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, il y en a pourtant eu une entre les deux tours de la présidentielle de 2017, mais un accord sans lendemain. Alexis Villepelet, le porte-parole de Debout la France.
Debout la France est une formation gaulliste, indépendante, qui n'a pas vocation à être le supplétif de telle ou telle formation politique.
Nicolas Dupont-Aignan affirme vouloir éviter un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, lui qui avait pourtant fait campagne avec cette même Marine Le Pen au second tour de la dernière présidentielle, et pour nombre d'anciens cadres de Debout la France, c'est à n'y rien comprendre.
Aux États-Unis, les démocrates avancent vers l'impeachment de Donald Trump, procédure de destitution. L'opposition a en effet formellement demandé au vice-président Mike Pence de le démettre de ses fonctions, sans quoi la procédure serait lancée. Des forts remous donc, à 8 jours de la passation de pouvoir avec Joe Biden, d'autant qu'hier, le ministre de la Sécurité intérieure a lui aussi démissionné. Le point sur toute l'actualité à Washington, ce sera dans le journal de 7h, dans moins d'une demi-heure sur France Culture. D'ici là, c'est au Mozambique que nous nous arrêtons ce matin, sur la côte orientale de l'Afrique. Les djihadistes y gagnent du terrain, notamment près de la Tanzanie. Ils s'implantent près d'un énorme projet de gaz liquéfié dont le groupe pétrolier Total est le principal opérateur. La menace est donc grande et l'entreprise française a commencé ces derniers jours à évacuer une partie de son personnel au Marwaman.
Pour le groupe Total, le scénario est en train de tourner au cauchemar. Les attaques djihadistes se rapprochent jour après jour de son méga projet gazier, un complexe offshore en construction de plus de 16 milliards d'euros qui doit voir le jour en 2024. Un programme d'investissement pharaonique dans un cadre idyllique. Des plages de sable fin à perte de vue, des eaux turquoises, un paysage de carte postale dans l'un des pays les plus pauvres au monde, gangréné par la menace terroriste. Des djihadistes qui ont déjà poussé ces dernières années plus de 570 000 civils sur les routes de l'exode, car comme en Syrie ou en Irak, ces islamistes ultra-radicaux désignés au Mozambique sous le nom des Al-Shabaab pratiquent les décapitations et les massacres de grande échelle. Alliés de Daesh, ils prétendent se substituer à l'État central dans le nord du pays où les autorités sont totalement dépassées au point que Total a dû retirer ces derniers jours une partie de ses 3000 salariés. Une situation qui ne cesse de se dégrader, ce qui pourrait remettre en question le projet du groupe pétrolier français.
C'était au Marwaman. Du gris et de la pluie pour tout le monde ou presque en France métropolitaine. Seules les frontières du sud resteront au sec aujourd'hui. Ce matin, prévoyez 3 à 10 degrés d'est en ouest. Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
L'équipe d'experts de l'OMS, Jacques, était attendue en Chine la semaine dernière pour enquêter sur les origines du Covid-19. Elle devrait finalement pouvoir entamer sa mission ce jeudi.
Oui Clara, comme l'annonce le site de l'Express, ces experts seront d'abord placés en quarantaine, ce qui peut paraître étrange vu la fiabilité des tests de dépistage. Du coup, il ne leur restera que 3 semaines pour enquêter. Ça fait des mois que le régime de Pékin repousse le principe même d'une enquête internationale et beaucoup de questions demeurent quant au programme de cette mission. Les experts auront-ils accès au marché de Wuhan, considéré comme l'épicentre de l'épidémie, qui a été fermé, désinfecté et totalement barricadé depuis 1 an? Michael Ryan, chef du programme d'intervention d'urgence de l'OMS, assurait à la mi-décembre que l'équipe ira à Wuhan. Nous travaillerons avec nos collègues chinois, ils ne seront pas supervisés par des fonctionnaires chinois, précisait-il. Mais pour l'infectiologue Grégory Gray, le délai imposé par la Chine va compliquer la tâche des chercheurs pour retrouver les premières traces de l'infection et l'origine du virus. C'est pourtant crucial pour prévenir la réapparition d'une épidémie et orienter les mesures de prévention vers telle ou telle espèce animale. Les experts travailleront à partir d'échantillons prélevés par des scientifiques chinois. Si l'enquête devait être entravée par les autorités, cela aurait un impact négatif sur la réputation politique et scientifique de la Chine, avertit le professeur Grégory Gray de l'université Duke aux États-Unis. La thèse officielle, avancée sans l'ombre d'une preuve, soutient que l'épidémie aurait été introduite en Chine depuis l'étranger et Pékin ne livre que peu d'informations sur les échantillons prélevés à Wuhan. Dans ce contexte, Alexandra Phelan, avocate spécialisée en santé mondiale à l'université de Georgetown, estimait dans le Washington Post, relayé par courrier international, que les scientifiques de l'équipe internationale n'ont peut-être pas l'expérience nécessaire pour naviguer dans les eaux politiques agitées de la Chine. Ce n'est pas que la Chine et les dirigeants chinois veulent des éloges, c'est qu'ils ne veulent pas de critiques, ajoute-t-elle. Pourtant, l'OMS avait été contestée dès le début de l'épidémie pour avoir adhéré à la version chinoise sans aucun recul et tardé à déclarer l'urgence sanitaire mondiale. Dans le Figaro, Renaud Girard rappelle que son souci de ménager la Chine populaire lui a même fait commettre une faute en décembre 2017. 19, elle a refusé de prendre en compte une alerte circonstanciée sur le danger du nouveau coronavirus envoyé par le ministère de la Santé de Taïwan, sous prétexte que l'île n'est plus membre de l'OMS, ayant perdu son siège à l'ONU en 1971 en faveur de la Chine continentale. La question se pose, que cherche donc à cacher la Chine dans cette affaire, et de rappeler qu'à l'Institut de virologie de Wuhan, on menait des recherches sur les possibilités de saut à l'espèce humaine de coronavirus porté par les chauves-souris, dont témoigne un reportage télévisé sur une grande chaîne chinoise relatant ses prouesses scientifiques. Une telle zoonose a-t-elle fini par survenir à la faveur d'un accident de laboratoire ? En 2018, des attachés scientifiques de l'ambassade américaine à Pékin avaient visité l'Institut de Wuhan et dénoncé les conditions de sécurité du laboratoire P4, même si jusqu'à présent rien ne la prouve. L'hypothèse d'un virus provenant d'un laboratoire chinois n'a toujours pas pu être écartée. Comme l'indique Le Point, à Wuhan, on ignorait complètement l'anniversaire du premier mort le 11 janvier 2020. Même son nom n'a jamais été rendu public. On sait seulement qu'il s'agit d'un homme de 61 ans qui fréquentait le marché Wanan pour faire ses courses. Zhang Zan, la lanceuse d'alerte qui avait montré dans des vidéos l'inaction des autorités locales de Wuhan au début de la pandémie, a été jugée coupable de provocation de troubles et condamnée à 4 ans de prison. Et en Afrique, la Chine déploie sa diplomatie sanitaire en tentant de s'imposer face à ses rivaux occidentaux dans la course au vaccin. Le Covid-19, vecteur du soft power de Pékin en Afrique. Pour Le Monde, Joan Tilwin a suivi la tournée africaine du ministre chinois des Affaires étrangères. Dernière étape en date, la République démocratique du Congo, dont le chef d'État s'apprête à prendre la présidence tournante de l'Union africaine. L'enjeu, la construction du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, sans doute aussi pour l'équiper de systèmes informatiques destinés à en aspirer les données, comme cela avait été le cas au siège de l'Union africaine. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire aujourd'hui, l'accord commercial Union européenne-Chine. L'Union européenne peut-elle croire aux promesses de Pékin ?
Oui, les promesses de la Chine n'engagent que ceux qui les reçoivent, disait récemment à Libération le sinologue François Godemans, confirmé peu après par les réticences chinoises, vous en parliez à l'instant Jacques, à délivrer des visas aux scientifiques de l'OMS, alors que Xi Jinping promettait la transparence, réticence partiellement levée cette semaine, vous le disiez encore, mais il ne leur restera que 3 semaines pour enquêter sur l'origine du coronavirus. Alors que deviendront les engagements formulés du bout des lèvres par les négociateurs chinois de l'accord sur les investissements avec l'Union européenne ? Engagement par exemple à ne pas recourir au travail forcé. Le Parlement européen promet d'être très vigilant quand il s'agira de voter sur cet accord annoncé le 30 décembre par la Commission européenne. Cela fait 7 ans que les deux parties travaillent à ce texte censé garantir un meilleur équilibre dans les relations commerciales entre la Chine et les 27. Bonjour Philippe Lecor.
Bonjour,
merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes senior fellow à la Harvard Kennedy School, vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et professeur à l'ESSEC. Alors Philippe Lecor, il faut d'abord faire un peu de sémantique. Ce dont on parle ce matin, ce n'est pas un accord commercial de libre-échange, c'est un accord sur les investissements.
Oui, vous savez qu'entre la Chine et l'Union européenne, depuis des années, il y a un échange d'investissements. Vous avez des groupes européens qui investissent en Chine, des groupes chinois depuis moins de temps qui investissent en Europe, dans la plupart des pays membres de l'Union européenne. Et donc, si vous voulez, il y avait un handicap de la part de l'Europe de plus en plus à l'égard des entreprises d'État chinoises notamment, et un manque d'accès au marché chinois, donc un défaut de réciprocité, si vous voulez. Donc là, cet accord essaie de rectifier un petit peu cette situation déséquilibrée en ouvrant davantage le marché chinois aux investisseurs européens.
Et quel marché, alors, par exemple, quand la France, par exemple, dit vouloir investir dans les maisons de retraite chinoises, est-ce que la Chine est prête à ouvrir ce marché-là et quels autres ?
Alors, bah, écoutez, il y a une liste de secteurs. Maintenant, on verra si effectivement ça se traduit dans les faits. Hein. Par exemple, l'automobile, hein, la voiture électrique. Vous savez que les groupes chinois, les groupes allemands en particulier, sont très présents sur le marché chinois. Ils font davantage de chiffre d'affaires en Allemagne, en Chine qu'aux États-Unis, par exemple. Et donc, c'est très important pour eux d'avoir accès au marché de la voiture électrique. Vous parliez des maisons de retraite. Il y a aussi des hôpitaux privés auxquels tient beaucoup la France, hein, parce qu'il y a des projets dans ce domaine-là. Il y a le stockage des données, les services financiers et d'autres secteurs. Maintenant, on verra vraiment sur le plan pratique si les choses sont suivies des faits, s'il n'y a pas des restrictions qui sont imposées à la dernière minute par le gouvernement chinois.
Le gouvernement chinois, qu'est-ce qu'il a à y gagner sur le plan strictement économique? D'abord, c'est vrai qu'on a vu que la Chine avait amorcé très récemment une nouvelle stratégie beaucoup plus fondée qu'auparavant sur la demande intérieure. Or, les négociations avec les Européens ont commencé il y a 7 ans. Est-ce qu'il y a un décalage aujourd'hui entre ce que la Chine avait pu dire aux Européens au tout début des discussions et ses aspirations d'aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Au départ, si vous voulez, la Chine se revendiquait et se revendique toujours d'une certaine manière comme un pays en développement, c'est-à-dire un pays qui n'est pas au même niveau que les Occidentaux. D'où ce décalage au niveau des investissements et le fait que le marché chinois, qui par ailleurs est contrôlé par une économie étatique, par un parti unique, et pour tout un tas de raisons, donc ne permet pas une liberté totale sur le marché chinois. Par ailleurs, il y a un certain nombre de champions nationaux, de champions industriels, de champions financiers qui gèrent la plupart des secteurs en Chine. Et donc, il n'y a pas de liberté économique à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que les avantages économiques qui sont limités, en revanche, les avantages politiques et les avantages géostratégiques, si on peut dire, sont importants parce que cette signature s'est faite 3 semaines avant l'inauguration du président américain, du nouveau président Joe Biden, et par ailleurs, donc politiquement, la Chine a tout intérêt à signer un accord, à montrer aux Américains, à montrer au reste du monde qu'elle est capable d'avoir des partenaires, d'avoir des alliés.
D'ailleurs, vous qui partagez votre vie, Philippe Lecor, entre la France et les États-Unis, comment ce rapprochement est-il perçu par Washington?
Eh bien, très diversement, puisque vous avez le conseiller de la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, qui a quand même envoyé un message quelques jours avant la signature de cet accord pour dire que les États-Unis étaient partants pour discuter avec leurs alliés européens de la montée en puissance de la Chine, de tous les sujets chinois, si vous voulez, qui rapprochent les Occidentaux et les démocraties. Vous savez que Joe Biden lui-même avait proposé de faire un sommet des démocraties, un sommet international qui permettrait de traiter des sujets qui fâchent, en particulier les entreprises d'État, les subventions, les transferts de technologies forcés, les lois, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, tous ces sujets-là et l'accès au marché. Alors aujourd'hui, l'accès au marché, sur le papier, il est renforcé, mais on se souvient aussi que la Chine a été membre de l'Organisation mondiale du commerce en 2001, il y a exactement 20 ans, et qu'elle n'a pas respecté les règles de l'OMC qu'elle avait pourtant signées.
Alors, à part les intérêts économiques qu'on a bien compris, Philippe Lecor, de l'Allemagne à ouvrir à ce que ces entreprises aient un accès accru au marché chinois, quels intérêts politiques? On comprend pas bien pourquoi, depuis la crise de 2008 jusqu'en 2016 à peu près, on disait qu'on bradait l'Europe aux Chinois, notamment quand la Grèce a vendu le port du Pirée aux Chinois. Et maintenant, Angela Merkel a l'air de penser qu'elle en tirera des bénéfices politiques, non pas pour sa carrière politique qui est bientôt finie, mais peut-être pour la CDU, ou comme une sorte de baroud d'honneur avant son départ.
Ce qui est un peu étonnant dans cette affaire, c'est que l'Allemagne, effectivement, a occupé la présidence tournante du Conseil européen pendant 6 mois. Elle a longtemps, un petit peu critiqué les pays qui se rapprochaient trop de la Chine, recevaient des investissements. Vous parliez de domaines portuaires, mais aussi dans les technologies, dans les infrastructures, les fameuses nouvelles routes de la soie, etc. Aujourd'hui, au contraire, elle prend l'initiative, on peut dire, et conclut cet accord qui reste à être ratifié quand même par le Parlement européen et par les parlements nationaux. Mais elle le conclut un petit peu à la dernière minute, sans se soucier tellement de ce que pensent des pays d'Europe centrale, d'Europe du Sud,
Italie, qui pourtant, Espagne, Pologne,
ont fait preuve de déférence, on peut dire, en signant un accord global, enfin une stratégie globale sur la Chine en avril 2019, et finalement n'ont pas tellement reçu ni d'investissement chinois, ni de remerciements de la part de l'Union européenne ou de l'Allemagne.
Avril 2019, c'est à cette date, l'Union européenne publiait ce document sur sa stratégie chinoise qui disait « la Chine est simultanément un partenaire avec lequel l'Union européenne a des objectifs communs, un partenaire de négociation, un concurrent économique à la poursuite d'une domination technologique et un rival systémique cherchant à introduire des modes alternatifs de gouvernance ». Maintenant, c'est vrai que signer un accord avec la Chine, c'est signer un accord avec un pays qui enferme les Ouïghours dans des camps de travail, qui fait emprisonner les opposants à Hong Kong et qui menace Taïwan. Quelle promesse peut obtenir l'Union européenne de Pékin en matière notamment de droit du travail et d'abandon total du recours au travail forcé? Quelle promesse peut-elle obtenir et surtout comment contraindre la Chine à les appliquer?
Elle n'en est absolument pas capable. La Chine a dit qu'elle suivrait les règles de l'Organisation internationale du travail, mais on n'a aucun moyen de contrôler ça et on n'a aucun moyen surtout de changer le système chinois. Et d'ailleurs, je ne pense même pas que ce soit une volonté de l'Union européenne. En revanche, nous, Européens, nous devons nous accrocher à nos valeurs, à notre état de droit, et nous pouvons éventuellement en discuter avec d'autres démocraties, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Inde, au Japon, et essayer de faire respecter des règles qui nous sont chères, notamment sur le plan économique. Et donc les transferts de technologies, c'est une chose importante, et la lutte contre le travail forcé aussi. Maintenant, est-ce que dans les faits, ça va être suivi des faits dans les mois qui viennent? Rien n'est moins sûr. Je pense qu'il y a une marge de négociation assez importante entre les Européens et les Chinois, et que l'inauguration du président Biden dans quelques jours sera un moment important pour éventuellement rapprocher les deux rives de l'Atlantique sur ce sujet chinois.
Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Philippe Lecor, avec cet accord, que l'Europe fait preuve d'autonomie stratégique par rapport aux États-Unis? Aussi, pour conclure un peu comme le deuxième volet de notre émission d'hier sur la guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis, guerre commerciale dans une bien moindre mesure que celle que mènent les États-Unis avec la Chine, mais l'Europe justement voudrait devenir une puissance d'équilibre entre les deux. Est-ce que c'est le cas avec cet accord?
Écoutez, d'une certaine manière, oui, mais d'une autre, c'est une façon de faire les choses à la va-vite pour essayer de faire pression sur les États-Unis. C'est une façon de répondre effectivement à la demande de chinoise qui tout d'un coup a levé des blocages qui étaient là jusqu'au 30 décembre ou presque. Et donc, je ne pense pas que sur le long terme, ce soit une bonne chose pour l'Europe. Mais du côté chinois, c'est une satisfaction.
Merci beaucoup Philippe Lecor d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes senior fellow à la Harvard Kennedy School et chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Elles sont artistes, écrivaines, politiques, avocates, juges. Je ne serais pas arrivée là si, nouveau podcast original de France Culture. Angélique Kidjo, Amélie Nothomb, Virginie Despentes, Christiane Taubira, Gisèle Halimi ou Shirin Ebadi, des femmes qui ont imposé leur voix dans un monde forgé par les hommes. À partir d'une série d'entretiens d'Annick Cogent, écoutons-les dans les voix de Julie Gaillet et Judith Henry qui signent la mise en scène. Je ne serais pas arrivée là si, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Ce mot de test, décidément, on le dit tous les jours, il existe donc désormais, Guillaume, un test de Trump.
Le test de Trump consiste en une question simple, Julie, Twitter et autres, Facebook. Ont-ils eu raison de bannir Donald Trump des réseaux sociaux? Alors à cette question, toutes les femmes et les hommes politiques ont estimé que le fait d'empêcher Donald Trump de s'exprimer par tweet ou par post était une atteinte insupportable à la liberté d'expression. Alors, je dis pas qu'ils ont eu tort, hein. Moi-même j'ai changé d'avis plusieurs fois à ce sujet. En revanche, je sais que j'ai rarement entendu François Ruffin, Bruno Le Maire exprimer la même opinion. Mieux encore, j'ai rarement entendu Ruffin et Le Maire approuver par Angela Merkel qui elle aussi attaque la décision de Twitter. La dirigeante allemande qui s'exprime avec parcimonie en général, juge, je cite, « problématique cette entorse à la liberté d'expression ». Alors encore une fois, on peut être d'accord ou pas avec ce point de vue. Ce qui est étonnant, c'est que des personnes généralement en désaccord sur tout soient unanimes. Plus encore, des politiques désireux de réguler les GAFAM, d'encadrer l'expression sur les réseaux sociaux, en somme, des politiques, hein, puisque c'est comme ça, hein, que l'on fait de la politique, et ben ces mêmes personnes sont pour une fois unanimes. Mais par quel mystère? Alors, première hypothèse, ceux-ci songent que c'est une bonne politique de défendre la liberté d'expression, y compris et surtout s'ils sont anti-Trumpis, ça les fait passer pour des êtres tolérants. La tolérance est une valeur unanimement louée, alors même qu'ils estiment souvent, d'une manière ou d'une autre, qu'il faut encadrer certaines expressions, par exemple celle des journalistes. Seconde hypothèse, c'est ce que l'on appelle un effet de position. De par leur exercice professionnel, ils se font une représentation spécifique de la liberté d'expression du politique, et c'est ça qui les conduit à défendre la liberté d'expression de Trump, puisque Trump, quoi qu'ils en pensent et disent, est désormais l'un des leurs. C'est à ce genre de réaction qu'on peut mesurer le fait qu'il existe une classe politique, autrement dit des gens qui réagissent conjointement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les politiques ont donc un instinct de classe qui les fait réagir de la même manière, comme les milliardaires sont presque tous contre l'ISF ou les cyclistes contre les graviers, ce qui veut dire que pour les politiques aussi, la classe l'emporte sur les partis.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et dans une quarantaine de minutes, nous allons évoquer cette crise sanitaire de la décision à l'adhésion collective. Nous serons en compagnie de deux sociologues, Henri Bergeron et Philippe Urfalino. En attendant, il est 7h, excellent réveil à tous. Nous sommes le mardi 12, pas du tout le mardi 12 octobre, que dis-je, le mardi 12 janvier 2021.